Les grands artistes commencent parfois très tôt, un crayon, une assiette de purée et déjà l'envie de tout dessiner. Septembre 1968, New York. Du haut de ses 7 ans, Jean-Michel joue avec ses copains sans voir la voiture foncer droit sur lui. Elle le renverse. Le voilà parti pour des semaines de convalescence. À l'hôpital, sa mère lui offre Grey's Anatomy, un livre médical. Jean-Michel est fasciné. Alors, crayon fixé à sa petite main, il recopie des dizaines et des dizaines de squelettes tirés de ses planches anatomiques, des créatures qui seront sa signature quand Jean-Michel deviendra l'artiste mondialement connu Jean-Michel Basquiat. Mon invitée de ce soir était-elle aussi prédestinée à dessiner partout? Enfant avec sa fourchette, elle esquissait elle aussi des silhouettes et des visages dans sa purée. Purée de patates, hein, j'espère, un aliment qui inspirera sans doute ses gros nez qui caractérisent son style. Bonsoir Florence Sestac.
Bonsoir.
Vous êtes depuis 50 ans une figure majeure de la bande dessinée française, cofondatrice de la maison d'édition Futuropolis. Vous avez été en 2000 la première femme récompensée par le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Vous avez marqué le 9e art avec vos albums autobiographiques devenus cultes comme Le Démon de Midi, publié en 97. Le 22 août, donc vendredi prochain, donc, votre nouvel album Elle ne fait pas son âge paraîtra chez Dargo, un cocktail savoureux de vos planches qui mettent à l'honneur l'une de vos alter ego, Noémie. Et parce que le corps de Noémie évolue au fil des années, que sa sexualité aussi, on a eu envie de vous présenter Soigny Landau, cofondateur de Cru, un média qui collecte la parole de dizaines de témoins sur l'intimité, la sexualité et les relations humaines. À 18h30, comme tous les soirs, ça sera le panorama culture. Au programme, un film qui fait peur aux spectateurs et au box-office, un livre qui fait peur lui aussi, les 40 ans de la mort d'une grande autrice italienne et un détour par Antibes. Alors préparez vos pinceaux, vos palettes et aiguisez votre sens de l'humour. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Alors Florence Sestac, l'univers Sestac, c'est plus de 50 ans de dessin, des couleurs d'ailleurs que vous posez vous-même dans votre atelier. Oui. Est-ce que vous avez peur, Florence Sestac, de devoir lâcher le crayon un jour?
Ah, c'est mon souhait. Oh là là, mon Dieu, c'est quelle angoisse. Non, j'espère que je pourrai dessiner encore longtemps. Alors, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pour les petits, les ados, les grands, les plus âgés, parce que l'avant-dernier, c'était le démon de mamie. Donc, j'en ai fait pour tous les âges. Et bon, j'espère pouvoir continuer longtemps. Et effectivement, notre angoisse, c'est de pouvoir tenir le crayon.
Vous arrivez toujours à tenir le crayon?
Pour le moment, tout va bien.
Tout va bien, on est rassurés. Avant de feuilleter vos albums, Florence Sestac, on passe au moment magazine de filles, au moment jeune et jolie. C'est le moment test. Je vais vous demander quelle vacancière vous êtes. C'est l'interview haute saison. Il ressemblait à quoi les étés de votre enfance, Florence Sestac?
Oui, c'était merveilleux parce que mon père, qui est Sestac, c'est du Sud-Ouest. Et donc, mon père est né à la Teste de Buch, à côté d'Arcachon. Et donc, il était un des premiers à acheter un terrain au Cap Ferré. Mais maintenant, c'est très branché, le Cap Ferré.
C'est inaccessible. Même.
Inaccessible. Et mais mon père était dans les années 50, acheter un bout de terrain là-bas. Et sa mère lui disait « Mais mon fils est fou, il a acheté du sable. » Voilà. Et donc, j'ai passé toute mon enfance comme Robinson Crusoe, libre comme tout, avec la forêt de pins, trois bateaux sur le bassin. Et...
Chaque année, chaque été, vous étiez voilà. Dans le bassin.
Les trois mois de vacances, on les passait là-bas. C'était merveilleux.
Un souvenir d'amour ou de flirt d'été?
Oh bah, y en a eu plein. Et puis on allait jouer de la guitare et tout. Il y avait des copains qui jouaient de la guitare à l'adolescence et tout, autour du feu et tout ça. On a même une année désensablé un blocos pour se faire une boîte de nuit.
Ah, c'est vrai?
Là-bas, au Cap Ferret.
Et oui. Qu'est-ce que ça a donné alors?
Eh ben, ça a eu un gros succès, hein, parce que tous les jeunes nous retrouvaient là-bas et on s'éclairait à la bougie et tout. On a passé tout notre été, on est rentré tout vert parce qu'on prenait jamais le soleil. On désensablait le
feu. Vous viviez la nuit.
Voilà.
Paris en été, vous êtes pour ou contre?
Ah, moi, je reste, j'ai passé 15 jours, là, à Paris, j'aime bien Paris au mois d'août.
Qu'est-ce qui vous plaît?
Parce qu'il y a plus personne, on est tranquille, on fait ce qu'on veut, et tout est ouvert, et tout est tranquille, j'aime beaucoup.
Ouais. Ce que vous détestez en été?
Le monde.
Ok, très bien, c'est large.
Oui. Donc, quand il y a trop de monde, je fuis, quoi.
C'est vrai, vous détestez les foules?
Ah oui, j'évite au maximum, quoi.
Et vous vous réfugiez où, alors, l'été, maintenant?
Et ben là, par exemple, j'étais à Granville, j'ai des amis, coucou les Granvillais, je leur dis, je vais leur faire coucou, voilà. Et donc, on allait dans une plage où il faut descendre des escaliers très pointus, tout ça, très, très, très raide et tout, et donc ça élimine pas mal de monde, quoi. Et donc, on était tout seul.
Il y a un écrémage.
Voilà.
On va se plonger dans vos planches, Florence Sestac, mais avant ça, moi, j'avais envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 1969, les hot pants, ces micro-shorts lancés par Marie Quant, scandalisent les parents. Marguerite et Carmen, les deux vaches vedettes de l'émission Interville font déplacer les foules et la jeunesse se congratule à grands coups de s'ébattre. Mais il se passe beaucoup d'autres choses. Écoutez bien.
At small step for man, one giant leap for mankind. And that looks beautiful to me, too. It has a stark beauty all its own.
Dites, combien de temps vous allez mettre pour aller jusqu'à là?
Environ 2-3 jours.
C'est vrai? Est-ce que ça me plairait de partir avec vous?
Ah oui? T'as un casque?
Ah oui, j'ai un casque, oui. Tu en mets un de toute beauté.
Pas le short, et encore, je trouve qu'il te couvre bien trop de choses.
Oui, mais alors l'homme, là.
C'est pas les hommes qui m'intéressent. Moi,
oui,
je
mais enfin, c'est la nouvelle mode.
Oui, d'accord, pourquoi pas. La liberté commence aussi en bas.
On a entendu évidemment Johnny, Que je t'aime, Easy Rider, les Beatles et la mode du short chez les hommes. Florence Sestac, l'été 69, vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans?
L'été de mon... Alors, 68, moi, j'avais 18 ans en 68. Mm. Et en 69, c'était après. Donc, il s'est pas passé grand-chose. Parce que le 68, ça a été très, très costaud pour moi.
Je vous ai vu quand même un peu chanter oui. Du Johnny.
Voilà, oui, oui.
Vous étiez obligé.
Voilà. Et donc, on faisait des booms et tout. Et effectivement, le slow Johnny, ça durait des heures et des heures. Ça... Oh là là, c'est formidable.
Il fallait choisir le bon partenaire. Oui. Sinon, on était enfermé et pris au piège.
Voilà. Voilà.
Avant de parler de votre carrière ultra prolifique et de votre passage en prison, Florence, il faut qu'on en parle. Ah, oui. On reste en 69 avec Françoise Hardy qui se demande comment te dire adieu sur France Inter.
Sous aucun prétexte. Silex, vite de pouffe, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
Tu as mis à l'index. Nos nuits blanches, nos matins gris-bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Inter. Le mag de l'été.
C'est un régime fasciste et réactionnaire.
Bon, écoutez-le.
Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société.
Très vite, les étudiants s'insurgent.
Les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus.
Florence Sestac, on revient à vos débuts, on est en mai 68, enfin on est l'année 68, vous allez fêter bientôt vos 19 ans, vous êtes étudiante juste aux Beaux-Arts de Rouen.
Exact.
Vous vous politisez. Et puis, il y a ce fameux 14 juillet 68, où vous décidez de mettre un peu le bordel.
Oui.
Au point de finir en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Exactement. Donc, le 14 juillet, il y a des drapeaux blanc-rouge sur toutes les mairies. Et donc, on était en vacances autour du bassin d'Arcachon. Et donc, on a eu l'idée de descendre tous les drapeaux bleu-blanc-rouge autour du bassin d'Arcachon et de remonter le rouge. Parce qu'on était.
Voilà,
de gauche,
très à gauche.
Voilà. Voilà. Et donc, on s'est fait attraper. Et donc, à l'époque, on a été condamné pour vol et destruction d'emblèmes nationaux. Voilà.
Et donc, 15 jours de prison, c'est ça ?
18 jours en préventive à Gradignan, qui était à l'époque la prison la plus moderne d'Europe. Voilà.
Donc des grandes baies vitrées.
Oh, c'était merveilleux.
C'était merveilleux. Voilà. Parfait, des belles vacances finalement.
Oui,
je voulais partir de là parce que vous dites que vous vous êtes beaucoup construite en opposition à votre père. Oui. Un père que vous dépeignez d'ailleurs dans un de vos anciens albums, pardon, un papa, une maman, une famille formidable, la mienne, publié en 2021. Il a joué quel rôle ce père dans votre parcours et dans votre construction, Florence Sestak?
Je me suis toujours battue contre lui, c'est-à-dire que je suis partie de chez moi à 12 ans, j'ai dit je veux aller en pension parce que je supportais pas l'ambiance de la maison. Mon père qui était patriarcal et qui disait toujours si je me suis mariée c'est pour me faire servir, donc les phrases comme ça, ça passait pas quoi. Moi, et donc je me suis sauvée très vite du cocon familial et donc pour lui, j'étais une fille perdue.
Et voilà. Cette incarcération, enfin,
c'était ouais. Le summum, là.
C'est
c'était
ça.
Le summum, voilà.
le dessin, je l'ai dit, ça a commencé dans la purée. Hein. Oui. Votre mère raconte que vous dessiniez oui. Déjà dans votre purée avec votre fourchette. C'est quoi vos premières influences quand vous êtes gamine en termes de BD ? C'est quelle série, quel univers ?
Mes parents me laissaient lire à peu près tout ce que je voulais en bande dessinée.
C'était pas genré ?
Non, voilà, parce que de toute façon, comme j'étais pas douée, j'étais dyslexique à l'école, donc j'étais la dernière, j'étais au fond de la classe, et donc on me laissait à peu près faire ce que je voulais. Donc j'achetais des petits formats qui s'appelaient les Pépitos, de Black Le Rock et toutes ces petites bêtises là, et c'était interdit bien sûr, mais je me suis beaucoup inspiré de ça. Puis j'étais abonné au journal de Mickey, j'étais abonné au journal de Spirou, mon frère était abonné au journal de Tintin, donc quand même j'ai vécu beaucoup là-dedans.
Vous avez baigné dans ces illustrés là.
Oui, oui, c'est pas interdit.
Et puis il y a eu l'importance de Franquin aussi.
Bien sûr,
ouais.
C'est mon maître.
Bien c'est sûr. Vrai, pourquoi oui. Pourquoi lui ?
C'est un virtuose du dessin, puis c'est quelle invention d'inventer un personnage comme le Marsupilami, mais c'est génial, quoi. Voilà, on ne peut pas faire mieux, quoi.
Vous intégrez les Beaux-Arts de Rouen en 65, puis vous montez à Paris, enfin vous allez à Paris en 68 pour continuer aux Arts Déco. Ouais. Ça se passe comment vos premiers temps à Paris, c'est dans cette effervescence urbaine parisienne de la fin des années 60 ?
D'un seul coup, il y a la vie, quoi. Pour moi, c'était waouh, on sort de ma sûreté, de ma province toute grise où il se passait rien, où il y avait pas grand chose et tout. Mes parents ne lisaient pas, ne nous emmenaient pas au cinéma. Et d'un seul coup, pour moi, la vie a commencé, quoi. Vraiment. Et donc, il y avait du cinéma, il y avait des expos, il y avait des manifestations, il y avait du théâtre et tout ça. J'ai découvert tout ça là, à Paris, quoi.
Et vous faites d'ailleurs vos premiers pas à Paris professionnellement. Vous pigez, vous proposez des illustrations pour des illustrations pour des magazines comme Salut les copains. Lui ou Mademoiselle Âge Tendre.
Eh oui, eh oui.
Comment ça se passait ? Vous alliez dans les rédactions ? Comment vous faisiez pour vendre vos dessins ?
Oui, oui, on se pointait le matin et puis il y avait plusieurs journaux. Il y avait Mademoiselle Âge Tendre et puis il y avait d'autres Salut les copains et tout ça. Et donc, ils nous donnaient le boulot à faire dans la journée.
Et c'était rémunérateur ou pas assez ?
Oui, non, c'était très bien payé, tout un, plutôt bien même d'ailleurs. Mais il y avait lui aussi. Et donc on arrivait le matin, puis on nous donnait le boulot, on faisait les petites illustrations dans la journée, on le livrait le soir, et voilà.
Ça vous permettait de vivoter dans Paris ?
Très bien. Oui, très bien.
Vous dites on parce que vous étiez à l'époque avec Étienne Robial, votre compagnon de l'époque. En 72, commence l'aventure Futuropolis.
Exactement.
Vous reprenez une petite librairie de quartier dans le 15e arrondissement de Paris, rue du Théâtre.
Oui.
Vous en faites la toute première librairie parisienne dédiée à la BD. Mmh. Et puis voilà, vous avez la vingtaine, vous retrouvez à gérer un commerce. C'était quoi l'ambiance de cette librairie et quel type de clientèle vous aviez ?
Ah bon, on avait toutes sortes de clientèles et tout. Et puis il y avait aussi des stars. Il y avait Schmoll qui venait avec plusieurs copains et tout. Et là, c'était le grand jour parce qu'ils en prenaient beaucoup et tout. Il y avait toutes sortes de
Et puis il y avait ces clients que vous dites un peu emmerdants qui venaient chercher le Mickey de leur enfance. C'était des collectionneurs, c'est ça ?
Oui, les collectionneurs. Alors souvent ils disaient mais le journal de Mickey que je lisais était beaucoup plus grand que ça. Et il fallait leur expliquer mais c'est vous qui étiez plus petit.
Des petites mains.
Voilà.
Très vite.
N'en débordez pas.
L'aventure continue. Vous vous lancez dans l'édition en créant les éditions Futuropolis. Oui. Toujours avec Robial. On est en 74.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éditeur, éditrice, à vous lancer là-dedans ?
Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait que de la bande dessinée qui concernait les enfants et les ados. Et il n'y avait pas...
Il n'y avait pas de BD adulte.
Non, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Ou des trucs de cul, ou des trucs moches, quoi. Et donc, on s'est dit, effectivement, il y a une bande dessinée pour adultes à faire. Et donc, on a vécu ce moment-là, l'éclatement de la bande dessinée pour adultes.
Bande dessinée pour adultes et bande dessinée aussi d'auteur, parce que vous mettez en valeur le nom de l'auteur.
Absolument.
C'était pas le cas avant.
Voilà. Parce que nous, on a appelé une collection qui s'appelait 30-40, en grand format pour être au plus près du format de l'original, et ça portait le nom de l'auteur. Il y avait Tardy, Giraud, Moebius, et donc c'était révolutionnaire à l'époque.
Et puis des formats qui ne rentraient pas dans les bibliothèques.
Bien sûr, souples, on ne pouvait pas ranger, enfin trop grand pour la bibliothèque, enfin voilà, très original. Quoi.
Vous avez donc quitté un peu l'aventure au bout de 5 ans, mais selon vous, avec votre regard d'éditrice, d'ancienne éditrice, quel regard vous portez sur l'édition en BD aujourd'hui? Est-ce que ça reste un art populaire?
Ben oui, toujours. Effectivement, elle est très foisonnante parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être un peu trop. Et puis il y a peut-être des albums qui sont un peu chers maintenant. Je trouve que c'est effectivement
c'est peut-être moins accessible.
Et oui, pour les jeunes, quoi. Ça fait un peu cher. Mais bon, il y a une proposition phénoménale, quoi.
Votre signature, parce que vous vous lancez après l'édition dans le dessin complètement à votre nom, votre signature, ce sont les fameux gros nez. Pourquoi le nez est si drôle, selon vous?
Non, mais graphiquement, ça annonce tout de suite qu'on va plutôt rigoler que de pleurer, quoi.
Oui, mais pourtant, vous utilisez aussi ce nez-là pour parler de sujets très difficiles. Donc, ça vous permet de mettre un vernis.
C'est ça, dans ce moment, j'en joue. C'est que les gens, ils prennent la BD, ils disent on va rigoler et tout ça. Mais par moments, ils pleurent. Et ce que j'aime bien, c'est les faire rire et les faire pleurer aussi en même temps.
Et est-ce que ce pari graphique des gros nez a déjà posé problème? Je pense au journal de Mickey, par exemple. Oui. Parce que vous avez publié pendant des années la famille débloque, donc entre 82 et 2003, dans le journal de Mickey, à raison d'une planche par semaine. C'est quand même beaucoup de boulot.
Oui. Pendant 11 ans, j'ai fait ça pendant 11 ans.
Est-ce que ces nez, ils ont posé problème au début? J'ai cru comprendre que oui.
Oui, oui, oui. Je me souviens que la rédactrice en chef m'a dit, c'est bien, on aime bien vos dessins et tout ça, mais il faudrait diminuer les nez. Alors j'ai dit, vous pouvez tout me demander sauf ça, quoi. Et puis ils ont fait des tests auprès des gamins qui ont dit, allez, les gros nez, c'est trop bien et tout, on en veut, quoi. Donc c'est grâce aux
gamins
que je suis restée, voilà.
On va ouvrir votre dernier album, Elle ne fait pas son âge et bien d'autres choses, Florence Sestac, mais d'abord un petit panorama de la culture, ça serait après une leçon de vie de Miles Kane, L'amour est cruel, titre coécrit et produit avec Dan Auerbach, le guitariste et chanteur des Black Keys.
Thank you.
C'était Laurie Scroll de Miles Kane, extrait de son nouvel album Sunlight in the Shadows, prévu pour octobre.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h33, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle, c'est le panorama.
Panneau,
oui.
Obé. Non, c'est panneau.
Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux.
Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux. Personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés.
Vous voyez quelque chose que je ne vois pas?
Montre-moi. Où est-ce que tu es parti?
Il se passe des choses extrêmement bizarres.
C'est la claque estivale au box-office évanoui, film d'horreur signé Zach Kreger, règne depuis sa sortie mercredi dernier. Le pitch, 17 enfants d'une même classe disparaissent d'un coup. Un cocktail d'horreur, de fantastique et d'enquête, servi par un casting impeccable. Et les chiffres, eux aussi, sont effrayants, recommandés à 97% sur le site de cinéphile américain Rotten Tomatoes, des hashtags omniprésents sur les réseaux sociaux, avec des spectateurs qui échangent leurs théories. Déjà 149 millions de dollars ont été générés, dont 89 millions aux États-Unis. Ce film de genre échappe avec panache au cliché d'un public adolescent qui veulent juste profiter de l'épouvante pour embrasser leur petite copine dans les salles obscures. Bref, il fait chaud, alors allez frissonner en salle devant Évanoui.
Le château d'Escoire va vivre dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941 une tragédie. Trois morts et un coupable tout désigné, Henri Girard, connu plus tard sous son nom de plume, Georges Arnaud.
Il est suspecté d'avoir tué, en 1941, donc son père, sa tante et également la bonne de la famille.
Octobre 41, Henri Girard est accusé du triple meurtre de son père, sa tante et la gouvernante. 19 mois en prison avant d'être acquitté 2 ans plus tard. Girard devient Georges Arnaud et publie Le salaire de la peur, 2 millions d'exemplaires vendus. Le meurtre n'a jamais été élucidé. En 2025, pour la rentrée littéraire, la fille de Georges Arnaud, Catherine Girard, prend la plume pour nous livrer un roman qui fait mal, In Violentia Veritas. Elle y raconte l'enfance de son père sous les coups, le poids d'une noblesse désargentée. Et elle s'interroge, peut-on rester la fille d'un assassin? Catherine Girard nous embarque dans sa tête, pétrie de contradictions et d'humanité. Une pépite à paraître mercredi chez Grasset.
Hans Hartung a dessiné cette maison avec la complicité de sa femme, Anna-Eva Bergman. Et c'est vrai que c'est une maison absolument magnifique. Elle a été terminée en 1973, cette maison.
Dès le départ, finalement, quand ils ont conçu cette maison, c'était pour abriter et conserver et faire durer leur œuvre.
Je ne suis pas sûr qu'au début, ils avaient cette idée-là. Je pense que c'était vraiment plutôt un lieu pour travailler. Mais au fur et à mesure, et notamment après leur mort, on s'est aperçu que les espaces étaient tels qu'il y avait de quoi en faire une maison qui soit une maison dédiée à leur mémoire.
L'été continue et nos événements culturels aussi. Cap sur Antibes aujourd'hui, la fondation Hartung Berman, qui ouvre ses portes au public la moitié de l'année seulement, accueille l'exposition Paysages intérieurs. On y découvre le travail du couple qui transformait fjord norvégien ou village des Baléares en vision abstraite, cosmique et vibrante. Leur toile entre en résonance avec d'autres œuvres d'artistes comme celle de Vera Molnar ou Terry Haas et avec la musique de Mahler ou Schoenberg. Paysages intérieurs jusqu'au 26 septembre à Antibes.
Dans la storia, j'ai mis San Lorenzo, qui est un quartier à côté du Verano.
Le personnage, au début de la storia, habite à San Lorenzo.
Oui, hein, oui. La maison a été détruite par le fameux bombardement de Rome.
Oui,
et après, il y a eu le départ des Juifs sur les trains déportés. C'était une chose vraiment atroce.
L'Italie et ses médias célèbrent déjà depuis quelques jours Elsa Morante, figure majeure de la littérature qui s'est éteinte en 1985, il y a 40 ans. Alors notre rattrapage culturel du jour, c'est sa grande œuvre, La Storia, publiée en 1974. Cette fresque monumentale qui a marqué toute une génération suit la vie d'Ida, institutrice romaine, et de son fils Giuseppe dans l'Italie écrasée par la Seconde Guerre mondiale. Immense succès populaire traduit dans le monde entier, La Storia reste un incontournable pour comprendre à la fois l'horreur d'un conflit et la force de la littérature italienne du XXe siècle.
Pourtant, on était persuadés de ne pas être un couple comme les autres. Bah ouais, on va se marier, c'est ringue. Se dire qu'on s'aime, c'est ringue. Et puis surtout, on s'était dit qu'on se quitterait jamais. C'était sans compter sur le démon de midi. Mais d'abord, démon de midi, bon, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors on va voir. Alors, démodé, ça c'est moi. Demoiselle, ça c'est fini. Ah voilà, démon de midi, tentation du milieu de la vie. Ah puis vous avez vu, hein, on ne dit pas là démon de midi. Non, le diable, c'est masculin. Et pourtant, c'est une salope qu'on profite.
Je suis toujours avec vous, Florence Sestac, BDaste au tournant des années 90. Vous vous mettez à dessiner votre propre histoire. Vous injectez de plus en plus de votre vie personnelle. Et ça donne naissance au Démon de Midi en 96, qui raconte comment l'homme avec qui vous aviez vécu plus de 20 ans vous a quitté pour une femme plus jeune. Ça a été adapté en pièce, on vient de l'entendre avec Michel Bernier. Pourquoi vous avez décidé de raconter cette épreuve intime ?
Parce que ça fait du bien, je vous jure. Et il y a plein de gens qui me disent, mais c'est formidable parce que vous pouvez raconter ce qui vous arrive. On aimerait le raconter. Et puis je pense qu'à l'époque, je touchais un fait de société qui concernait beaucoup de monde.
Oui, il y a une universalité, voilà. J'imagine, voilà. Qui s'est retrouvée d'ailleurs quand il y a eu l'adaptation sur scène. Donc vous avez dû avoir Exactement. Des retours du public.
Et c'était totalement inattendu parce que je publiais dans un monde très masculin chez Dargo et tout ça. Et donc c'était pas du tout prévu. C'est parti en flèche.
Vous avez ensuite donné une suite, puis une fin, ou pas d'ailleurs, à cette histoire sous forme de trilogie, Le démon d'après-midi, Le démon du soir ou La ménopause héroïque. Oui. Ces deux albums, ils poursuivent la chronique de la vie de votre héroïne Noémie, qu'on retrouve dans votre prochain album d'ailleurs. Oui. Pourquoi vous aviez envie d'explorer la vie de cette femme, quinca, puis sexagénaire? C'était important pour vous de la suivre sur plusieurs années?
Oui, bien sûr, c'est moi. Hein. C'est moi. Voilà, elle s'appelle Noémie, mais c'est un peu moi, de ce que je vis et tout. Je pense qu'on raconte bien ce qu'on connaît bien, et donc moi j'ai envie de raconter ce que je vis, ce que mes amis vivent et tout ça, et ça fait des histoires qui touchent les gens parce que ça les concerne au premier degré.
Qu'est-ce que vous racontez dans ce nouvel album Elle ne fait pas son âge? Vous avez rassemblé en fait des planches, qui avaient été publiées dans des magazines.
La majorité des planches ont été publiées dans une revue qui s'appelait Femmes majuscules, qui était plutôt destinée aux femmes de 50 ans. Donc c'est un peu la vie des femmes de 50 ans de ça fait une dizaine d'années que ça a été publié, mais c'est toujours d'actualité, je pense.
Vous parlez des femmes dans un milieu historiquement très masculin, la bande dessinée. Alors on cite généralement Claire Bretéché comme votre grande sœur de BD. Les exemples de BDistes féminines étaient rares. Comment vous avez réussi à faire votre place à cette époque, au milieu de tous ces hommes?
Eh ben, il faut avoir de l'humour, voilà.
C'était ça votre...
Oui, le ressort de l'humour, ça vous sauve de tout. Et moi, c'est vrai que dans la vie, j'avance un peu avec le nez de clown, quoi. Je mets le nez, je rigole.
C'est ça qui vous permet de foncer.
Voilà. Ça marche comme ça.
En l'an 2000, vous brisez un plafond de verre. Vous êtes la première femme à recevoir le grand prix du festival d'Angoulême. Oui. Et ça vous donne carte blanche pour organiser le festival de l'année d'après et pour choisir votre jury. Oui. Qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, ce que je fais, d'habitude, il y a toujours 10 membres du jury. Donc, il y a 9 garçons et une fille. Et moi, j'ai inversé. J'ai fait 9 filles et un garçon, quoi.
Et voilà. Comment ça a été reçu?
Il y en a qui ont râlé, bien sûr, comme d'habitude, mais c'était tout plus bien reçu. Et l'homme qui a fait l'homme, c'était Albert Algou. Et donc, on s'est bien marré.
Et qui a remporté le prix, alors?
À l'époque, c'était qui, déjà?
C'était pas Sartrapi?
Marjane Sartrapi, ouais. Avait le prix pour un album. Oui,
c'est ça.
Persepolis.
Comme quoi, voilà.
Et le Grand Prix, je me souviens plus. C'était Martin Ferron, pardon.
Ouais, des femmes peuvent donner un prix aux femmes, c'est pas mal.
Exactement.
J'aimerais qu'on s'attarde à présent sur un album précis qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui illustre votre engagement féministe. Ça s'appelle Des salopes et des anges. C'est paru en 2011. C'est une BD sur l'avortement clandestin et ces voyages désespérés que faisaient les femmes avant la loi Veil. Pourquoi vous avez voulu dessiner cette histoire-là?
Eh ben, je l'ai fait avec, donc c'est Tonino Benacquista qui a écrit le scénario. Et donc, j'ai vécu, moi, l'avortement en Angleterre. On prend le car et on va se faire avorter, on rentre et tout. Et donc, un soir, je raconte ça à Tonino, comme ça, et il dit, mais c'est dingue, ça n'a jamais été raconté. Je dis, bah non, parce que on s'en vantait pas. À l'époque, c'était quand même clandestin et tout. Ça se faisait des... C'était mal vu, quoi. Et donc, il a dit, voilà, on fait un album tous les deux, on raconte ça en long, en large et en travers. Puis il a bâti une petite histoire autour, et voilà. Mais c'était l'ambiance de l'époque, c'était comme ça.
Et c'est un album qui est dramatique, qui est bouleversant. On ne rit pas forcément en lisant cette BD-là. Et c'est ce que vous disiez en première partie, le gros nez permet aussi de prendre de la hauteur.
Bien sûr, parce que c'était sordide quand même. Il y a 50 femmes qui partent comme ça dans la clandestinité pour se faire avorter. Et qui rentre plutôt très mal, quoi. Tout le monde pleurait. Dans un quart entier de femmes qui pleurent, c'est dur à raconter. Mais avec le gros nez, on arrive à faire passer tout ça et faire des petits gags et de.
Sans tomber forcément dans le pathos. Votre héroïne Noémie, elle vieillit avec vous. On voit son corps se transformer, on voit son soutif se détendre. Oui. C'était important pour vous, Florence Sestac, de montrer des corps féminins ordinaires qui bougent, qui se transforment.
Oui. Ben oui, on n'est pas que des fantasmes de mecs avec des seins monumentaux et des.
C'est ce qu'on voit beaucoup dans la BD aussi. Ah ouais.
Oui, donc on s'arrange pas en vieillissant, on vieillit, ben il faut dessiner comme on est, voilà. Mais Claire Bratéchat faisait ça très bien aussi, quoi. Dessiner les femmes comme on était, c'est une des pionnières.
Quoi. Ouais, et parce que le corps des femmes en BD, souvent, il est très archétypal, c'est ce que vous
dites. Bien sûr,
ouais.
Bien sûr. Voilà, c'est toujours fantasmé par les garçons et tout. Ça n'existe pas, des filles comme ça.
Vous avez osé parler de désir, de ménopause, de sexualité à 40, 50, 60 ans et 70 ans à travers vos héroïnes. Et justement, parce que le désir ne s'arrête pas à 30 ans et qu'être cru donne parfois un petit coup d'accélérateur à la levée des tabous, on a eu envie, Florence Sestac, de vous présenter Soigny Landau. Il a cofondé un média indépendant du nom de Cru. Dans ses vidéos, des Français de tous horizons, de 18 à 98, à 88 ans, pas 98, 88 ans, parlent d'intimité et de sexualité. On reprend avec lui après le morceau rétro de Gatien et Barbagallo qui rendent hommage au printemps sur France Inter.
Et on n'aura pas lutté
C'était Des printemps de Gatien et Barba Gallo.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent à la table du mag de l'été, je suis toujours avec vous, Florence Sestac, la reine de la bande dessinée française depuis 50 ans. Vous êtes venue nous présenter votre dernier album chez Dargaud, Elle ne fait pas son âge. Et on a été rejoint par Soigny Landau, co-créateur du média en ligne Cru. Bonsoir.
Bien, bonsoir.
Sur YouTube, vous confrontez des Français à des questions du quotidien, parfois intimes et parfois très intimes. On écoute.
Dis-moi, qu'est-ce qui te fait jouir ?
On me touche les tétons. Ça peut être fatal, quoi.
Ce qui me fait jouir, c'est l'écoute. L'écoute parfaite entre les deux partenaires.
Il n'y a pas un truc en particulier, je pense, qui me fait jouir.
C'est vraiment un tout, un contexte, une personne.
Enfin, c'est de la personne en face qui doit savoir s'y prendre. Je pense qu'il n'y a pas une formule magique et puis ça dépend de chacun.
Je jouis très facilement, je crois. Presque peu importe avec qui je couche, bah, je peux arriver à jouir, tu vois.
Extrait de votre format Les 100, vous nous racontez, Soigny Landau, la naissance du média cru et de ce format Les 100, un concept, enfin le concept le plus connu de votre chaîne d'ailleurs.
C'est simple, un jour Raphaël Eslow est rentré et nous a confronté avec mon collègue Aurélien Verret et nous a dit j'ai une super idée, venez on interview des centaines de personnes et on leur pose des questions sur le quotidien et au début j'étais mitigé. Et on l'a quand même fait, et après la session, j'étais étonné parce que les gens s'étaient énormément confiés, et on s'est dit, on adore, on continue.
C'était en quelle année ?
C'était en 2019, juste avant le Covid.
Ah excellent choix.
Ouais.
Il est question de vie quotidienne, donc de relations amicales, romantiques, mais aussi de sexualité et d'intimité. On va creuser cet angle ensemble. Pourquoi parler de sexualité sur YouTube ?
Alors, on parle de sexualité, on parle de quotidien, mais on pense que c'est important parce que c'est un univers qu'on n'ose pas forcément aborder. On a tous l'impression d'être un peu dans notre petite vie et que personne vit ce que nous on vit. Et on s'est dit qu'en posant certaines questions, les gens...
À des anonymes en plus.
Exactement. Tout à fait. On s'est dit que ça pouvait apporter une réponse à certaines personnes. Ça a été le cas. Certaines personnes qui sont venues se faire interviewer ont trouvé dans nos vidéos justement certaines réponses et ont voulu eux aussi transmettre par la suite. Et nous, on a adoré.
Vous avez la trentaine, je ne me trompe pas ?
Oui.
Voilà. Vous avez la trentaine. Vous pensez que votre génération, elle a manqué d'éducation sexuelle et de liberté de parole à ce sujet-là ?
Pas forcément, parce qu'il y avait les radios libres, il y avait plein de choses qui nous permettaient d'accéder, on va dire, à une forme de compréhension de la sexualité, mais je pense qu'il faut que ça continue, et peut-être que ce qui est maintenant intéressant, c'est d'avoir la parole de personnes qui ne sont pas connues, des personnes qui ont un quotidien qui nous ressemble à tous, et qui vont pouvoir parler de ce qu'ils vivent pour être vraiment représentatif de chacun, quoi, en fait. Hein,
oui, des anonymes, comme on entendait chez
Exactement.
Ziful, par exemple.
Tout à fait.
Pendant la radio libre de Skyrock, par exemple. Florence, que vous avez vécu l'avant-après mai 68, avant cette grande révolution. Est-ce qu'on vous a parlé de sexe quand vous étiez plus jeune ou pas du tout ?
Ah, pas du tout.
C'était un non-sujet.
Oh là là, non, c'était un sujet qui n'est pas abordé. Le premier jour où j'ai eu mes règles, je ne savais pas comment ça fonctionnait.
On ne vous a rien dit ?
On ne m'a rien dit. Ma mère m'a dit, ça t'arrivera tous les mois et voilà.
Des meurdens ici.
Des bouts, tu vois. Voilà.
Et Soigny Landau, comment vous faites d'ailleurs pour avoir un panel d'âge aussi diversifié dans vos vidéos ?
Alors, il y a plein de gens qui veulent participer, qui remplissent des formulaires. Nous, on les reçoit, on les analyse, on lit, et puis après, on renvoie plein de mails. Et par rapport aux réponses, on va voir les âges. Et on va essayer de choisir des gens qui ont tous les âges. On va essayer d'aller surtout de gens qui vont avoir 40, 50, 60 ans. Et puis après, on va choisir des plus jeunes.
Florence Sestac, vous avez exploré la sexualité sans tabou dans vos BD. Je pense à Ginette Martel, qui est un album pour adultes, disons-le, en 80. Qu'est-ce que le dessin permet de dire sur le sexe qu'on n'oserait pas dire autrement ?
Justement, de faire drôle. On peut faire du sexe rigolo et drôle et tout, et puis dessiner des culs, des bites et des seins, et c'est plutôt... Moi qui ai un trait plutôt arrondi, c'est toujours un grand plaisir.
Et parler de sexualité à tout âge, c'est hyper important aussi.
Bien sûr.
Parce que le désir s'arrête pas à la trentaine.
Ben non, pas du tout, voilà. Contraire.
Et vous aussi, Soigny Landau, le fait de faire parler des personnes qui ont au-delà de 50 ans, c'était important pour vous ? Pourquoi ?
Oui, comme vous avez dit, le désir s'arrête pas à 30 ans, il continue, il se modifie, il change avec le temps. Et quand on est jeune, on nous fait croire que la jeunesse est éternelle. Et plein de gens vont vous répondre que non et que le désir est peut-être plus intense plus tard. car il se modifie. Et c'est ça qui est intéressant.
Et est-ce que vous avez été surpris avec votre équipe de certaines réponses? Est-ce que vous avez été touché par certains tournages, certains moments? Vous avez un souvenir de ça?
Alors oui, on a été souvent cueillis, on a été touché, on a été... Enfin, vraiment, on est passé par toutes les émotions, on s'y attendait pas. On a eu surtout des émotions très fortes quand on parle avec des gens et qu'ils se rendent compte d'un moment très compliqué, très difficile, qu'ils n'ont jamais su verbaliser.
Donc il y a des gens qui réalisent face caméra ce qui a pu leur arriver, traumatismes par exemple.
Oui. Pour la question « quelle est votre première fois ?», il y a une personne qui a réalisé qu'elle s'était fait violer.
Ouais, qu'il y avait qu'elle n'était pas consentante.
Exactement.
Et comment vous réagissez? Parce que je ne sais pas ce que vous faisiez avant, Swanny Landau, mais vous n'avez pas forcément une formation de sexologue ou de psy. Comment vous réagissez quand un témoin réalise un trauma, par exemple?
Alors, déjà, nous, on reste beaucoup en recul. On est là plus pour les protéger par rapport à leurs réponses, si ça va trop loin, et leur dire, attends, là, tu as dit ça, est-ce que tu es en accord avec toi, déjà, pour commencer. Après, moi, j'ai travaillé au Passage des Désirs pendant 3 ans, et on avait une grosse formation, donc j'étais pas...
un sex shop, voilà.
Voilà, pour un love shop.
Pour les qui ne connaissent pas.
un
love shop, c'est plus chic, quand même.
Oui, c'est beaucoup plus chic. Il y a plein de choses que je pourrais en dire. Enfin, bref, on a tous une manière de se mettre un peu en recul pour laisser en fait la parole aux gens. En fait, notre but, c'est vraiment de laisser la parole aux gens et ne pas intervenir quand ils parlent. On est vraiment là que pour leur dire attention à ce que tu viens de dire.
Et comment se passent les tournages? J'ai cru comprendre que c'était un vrai marathon. Comment ça se passe? Comment vous organisez?
Eh bien, 2 à 3 semaines avant, on envoie des formulaires pour dire est-ce que vous voulez participer. Une fois que tout le monde a répondu, on choisit 100 personnes, voire 110 personnes pour être sûr, parce qu'on a souvent des désistements. Et on va passer 10 jours en enregistrement dans nos studios. On va essayer de mutualiser les coûts, parce qu'on est une toute petite équipe. Et on va faire 9 à 10 interviews par jour et on va bien rigoler. En règle générale.
Et comment vous faites par rapport à la démonétisation? On sait que YouTube, c'est une plateforme, une multinationale qui peut démonétiser certaines vidéos. Donc, vous pouvez perdre aussi de l'argent ou du moins ne pas être rémunéré avec du contenu. Comment vous faites pour éviter cette censure?
Alors, on ne peut pas l'éviter. Ouais. C'est un peu un choix. On essaye de jouer avec les titres. À la place d'un E, on met un 3. À la place de certains mots, on va mettre une
titre. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'algospeak.
Exactement.
Je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Voilà. Donc, vous essayez de contourner, en fait, certains termes. Vous ne les écrivez pas de manière abrupte. Vous allez mettre, pour le mot sexe, par exemple, vous remplacez le E avec un 3, c'est ça?
Exactement. Exactement. Et puis, on ne bip pas les mots. Donc, forcément, souvent, on se fait démonétiser. Et puis, c'est aussi un parti pris. On a décidé de parler de sexualité et on en
paye. Et autant y aller franco.
Voilà,
avec les bons mots. Vous dites que vos vidéos sont un peu comme des archives vivantes. Ça fait penser au témoignage un peu au micro-trottoir des années 70 de Lina. C'est ça que vous voulez faire dans 50 ans pour aller revoir, pour comprendre comment les Français parlaient de sexe en 2020?
Ouais, entre autres, de sexe, de quotidien, de tout. Je pense que c'est très inspirant ce que Lina fait. Et puis nous, on regarde souvent aussi ce qu'ils font et on compare de temps en temps les réponses qui sont effrayantes. Dans les deux cas, de temps en temps.
C'est-à-dire
on va avoir des cas de monsieur qui parle, par exemple, du viol, encore une fois, et qui disent que les gens le cherchent et c'est effrayant d'entendre
ça.
Et
ça vous arrive encore en tournage?
Alors, de temps en temps, on va avoir des gens qui vont avoir certains propos qui vont pas être en accord avec nous, mais on n'est pas là toujours pour discuter avec eux, donc on
les
laisse dire.
Mais vous les coupez
au montage? Même pas, on les coupe pas. Ce sont leurs propres censeurs, on fait juste attention.
Parce que l'idée, c'est de montrer un échantillon et de révéler ce que pensent les Français de leur sexualité.
Exactement, et puis on n'est pas là pour les censurer, on est juste là, comme je disais, pour leur dire « Attention, tu viens de dire ça, est-ce que tu assumes vraiment ce que tu viens de dire ?» Parce que c'est un peu touchy. Nous, il n'y a pas de souci, on le diffuse. C'est à toi de prendre tes responsabilités par rapport à ce que tu as dit, mais on appuie bien sur le fait de tu as le droit aussi de pas répondre. Le non est une réponse en soi qu'on oublie trop souvent.
S'il y a une vidéo, un thème qui vous a le plus marqué dans vos vidéos, laquelle vous pouvez conseiller à nos auditeurs qui ne connaissent pas Cru?
Il y en a tellement, on pourrait dire « Quelle est ta première fois ?» qui est assez intéressant. C'est quoi Ouais, il y en a tellement. Les violences intrafamiliales, je pense aussi bêtement, c'est peut-être moins sur la sexualité, mais je pense que c'est important de pouvoir...
Ça reste dans l'intimité.
Exactement.
Merci beaucoup. Alors cette émission touche à sa fin. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valoche pour cette dernière semaine de vacances? C'est le kit de survie culturelle. Florence Sestac, la dernière BD qui vous a fait mourir de rire?
Oui, c'est une BD de Bouzard qui s'appelle Les vacances chez Pépé et Mémé.
Pourquoi ?
C'est à mourir de rire. Parce que c'est tellement ça, c'est tellement drôle et tout. Avec des histoires, il y a du cul aussi, voilà.
Voilà,
des animaux et tout le monde et tout. Et c'est hilarant.
Soani Landau, une créatrice ou un créateur de contenu à suivre qui parle de sexualité ?
Ben, on vous propose Lisa Le Prat avec Cru. C'est quelqu'un qui est passé dans les sons, qu'on trouve qui parle très bien et qui peut aider. Je pense pas mal de gens.
Florence Sestac, le meilleur album pour découvrir Franquin, qui est un peu votre totem.
Oh bah c'est tous les Spirou avec le Marsupilami et puis surtout Gaston Lagaffe.
Oui, Gaston Lagaffe quand même.
Indémodable, Gaston.
Qui a lui aussi un gros nez.
Bien sûr.
C'est
bien
de
sûr.
Là aussi que vous tirez. Ah
bah bien sûr, oui, c'est mes influences, bien sûr, avec Popeye, avec Pupito et tout ça, quoi, voilà.
Soani Landau, la meilleure série pour parler d'intimité avec les jeunes, qu'on peut conseiller à des parents, par exemple.
Alors, je vais être un peu mainstream, mais.
Sex Education.
Et voilà. Sex Education, qui je trouve très bien.
Ouais, qui est super. Pourquoi elle est très bien, selon vous ?
Elle aborde beaucoup de problématiques d'ados, et je pense que c'est important de leur parler. Et je trouve qu'elle donne aussi des problématiques de parents. Et c'est pas mal aussi de voir ce côté.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux, Florence Sestac, votre alter ego Noémie est de retour dans Elle ne fait pas son âge, qui paraîtra vendredi chez Dargaud. Mmh. Soani Landau, on invite tous les auditeurs et auditrices à découvrir votre chaîne YouTube et votre compte Instagram, tous les deux intitulés Cru CRU. Joyeux, jolie fin de mois d'août à tous les deux.
Merci.
C'était le Mac de l'été avec Louis Tempero, Tara Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Yann Ozaman à la réalisation, assisté d'Étienne Kenel et à la technique Rémi Sistiaga.